Dans mon cheminement, Minuit en mon silence se tient à la croisée de plusieurs types d'écriture que j'ai pratiqués jusqu'ici, le roman, le poème, et ce que, faute de mots, je décrirais comme un moment nocturne de la parole. Une parole qui se veut d'abord fidèle à une expérience intérieure, comme une nuit blanche qui mène, celui qui veille dans le noir, jusqu'à une heure frontalière de son être. Ce texte est une méditation à la fois sur la passion et la dépassion amoureuse. C'est une lettre posthume de ma jeunesse, une salutation à Alain Fournier, et le testament de Werner Heller, un lieutenant prussien qui, quelques heures avant de retourner au front, adresse une lettre à la dernière femme qu'il a aimée. On oppose souvent l'amour à la guerre, mais c'est oublier qu'on approche également d'une ligne de feu dans l'amour, d'un front intérieur, où les blessures, pour être invisibles, n'en sont pas moins réelles. Je pense à Vladimir Holan, le poète tchèque, qui écrivait « Nous vivons dans un monde sans amour pour la simple raison, peut-être, que nous craignons la cruauté de l'amour. » Werner Heller, le soldat prussien, dit une chose presque similaire quand, au terme de sa lettre, il livre cette confidence. L'amour n'est pas une terre d'asile, le séjour heureux des amoureux. C'est une île violentée des éléments, un roc cabré comme un lièvre sous la serre d'un haut vent de proie, un climat où la lumière des fontes et la nuit du gel se livrent à main nue un combat sans issue. Qui peut vivre ici sans périr à lui-même? Mais le meilleur résumé, sans doute, que l'on peut faire de Minuit en mon silence, c'est un dialogue dans un rêve il y a quelques jours de cela qui me l'a donné. Qu'est-ce que l'amour? Demandait une voix dans ce rêve. Et une autre voix répondait: c'est un échec qui a réussi. Minuit dans mon silence. Je me suis levé au milieu de ma vie. Il faisait noir. Le sommeil m'avait fui. Une profondeur glacée sourdait de mon être. Rien n'y remuait. Tout hivernait. J'ai marché longtemps en moi avec une sorte de vitesse immobile, de lenteur agrandie, de vertige épuisé. Le regard infatigué pourtant, rendu plus lucide par le grand calme d'une nuit blanche. Je n'ai rencontré personne. Dans l'obscurité, les nuages semblaient filer à contre-vent. Je me suis accoudé sur le pont d'un silence. À l'aube, j'ai poursuivi mon chemin. Merlenwald, lundi 28 septembre 1914. Cher Els, je dois bientôt m'en aller, partir, vous quitter. C'est la dernière nuit que je passe en tête à tête avec votre absence. C'est là, je sais, toute la compagnie que je recevrai jamais de vous. Demain, je serai de retour au front. Je n'ai jamais pu mentir devant vous. Je m'avance sur un chemin où, dans quelques heures, à l'instant peut-être, vous lirez ces mots, je me serai déjà franchi. Le passage a toujours été étroit entre le monde et moi. Enfant déjà, mon âme pesait de tout son ciel contre ses barreaux. Je dis âme comme je dis enfance. Et c'est votre visage que je vois. Mais vous n'êtes pas là. Et je ne suis plus assez enfant et trop homme pour souffrir tardivement d'espérance. C'est autre chose que je cherche. Comprenez-vous? Il y a en nous l'enfant qui nous quitte, cédant la place à l'adulte. Et il y a l'enfance qui ne nous quitte pas, ne nous quittera jamais, quel que soit notre âge. Cette enfance-là n'a rien de commun avec l'inexpérience ou une puérilité enfantine. Cette enfance-là, madame, est en nous comme la voix muette de l'infini, insondable, insecourable. C'est un silence de neige autour de quoi tout se tait et écoute. Qui n'a jamais entendu ce silence murmurer en lui? Il s'est élevé tôt en moi, et une fois entendu, je n'ai plus l'oublié. Je l'entends qui passe sur chacun de vos traits. Seul votre visage entre tous me le rappelle. Pourquoi le vôtre? Je ne sais presque rien de vous. Vos pensées comme vos nuits me sont inconnues. Je ne vous connais que de loin, et pourtant, depuis notre rencontre à Paris, vous m'êtes devenu plus intimement lié que mon propre souffle. Vous êtes apparu sur mon chemin en l'ouvrant à sa plus secrète sente. J'ai croisé votre regard à l'instant même où, recueilli en vos pensées, votre pas à l'encens pesé sur le pavé, vous sembliez venir d'une région plus silencieuse de l'être. Une chute de longs cheveux enroulés à la nuque vous descendait noirement sur la poitrine. Vous aviez une taille mince, une expression de spacieuse élégance, cet air fatal des beautés qui se taisent, je ne sais quelle douceur lointaine, de réserve, de grâce, qui rend grave comme devant des choses profondes. J'allais à vous comme on marche au bord du vide, fouillé par la peur et un pressentiment mortel. Qu'une inconnue, belle, de cette beauté qui nous voit sans nous voir, apparaisse dans notre vie. Soudain, son regard rencontre le nôtre, et à cet instant, les yeux d'un homme s'ouvrent à l'âme qu'il avait perdue de vue en lui. Pourquoi, madame ? Pourquoi, partout, à tout moment, nous chercher du regard ailleurs qu'en nous-mêmes ? Pourquoi est-il si difficile d'entrer en soi, si c'est là, paraît-il, que nous sommes ? Je veux regarder mon âme. Je veux la voir avec toute ma pensée, même si ma pensée ne va pas jusque-là. Pourquoi un regard, un visage inconnu en aurait-il seul le pouvoir ? Il est aisé d'éprouver de l'amour, ardu d'aimer. Sait-on même si c'est parler de l'amour avec plus de vérité que d'en parler avec cette délicatesse gantée ? Comme si nos mots, chacune de nos paroles, ne faisaient jamais que coudre des lèvres sur ce qui saigne. Il n'y a jamais eu qu'une seule question au fond. Existe-t-il ici-bas une liberté qui rend libre ? C'est pour demain, madame. J'ignore quand, ni à quelle heure de la matinée, de l'après-midi ou de la nuit. Demain. Je ne sais plus quel jour nous sommes aujourd'hui. Freitag. Comment disons-nous Freitag en français ? Vous n'avez pas appris l'allemand, madame ? Moi, ça fait 7 ans que je ne le parle plus. 7 ans, 7 ans et demi. Ich weiß nicht genau. Je ne sais plus au juste. Les jours se chevauchent comme en haute mer, les vagues se fondent l'une dans l'autre, jusqu'à cet horizon sans corps, là où le ciel est un demi-jour qui en tombe le regard. Qu'importe quel aujourd'hui nous sommes, quelle date, quel mois, c'est demain que je vais mourir. Je le sais. Je le sais d'une certitude effroyablement calme et douce, comme l'adolescence porte en elle le deuil d'un premier amour avant même d'aimer. On en meurt sans mourir, car l'hiver d'un premier amour est de ceux qui ne blessent pas à mort, mais à vie. Combien cependant j'aimerais sentir votre regard me traverser encore un instant, vous savez, comme le mouvement nocturne d'une foule où notre hâte, notre fièvre, toute notre volonté meurt en immensifiant en nous leur perte. Il se fait tard. Je dois me préparer. Quelques heures à peine me séparent de l'aube. J'ai besoin encore un moment de mon visage de nuit. La comète est toujours là, près de la grande ours. La comète de l'avant, disent les journaux. Mais tout le monde l'appelle la comète de la guerre. Son éclat va encore croître, dit-on. Bientôt, on apercevra l'œil nu de Paris, de Montmartre, de la fenêtre de mon ancien atelier de peintre, rue d'Orcel. Mes hommes disent qu'elle augure d'une victoire glorieuse, pour nous évidemment. Nos femmes implorent simplement la comète de mettre fin à cette guerre. Seul, Orphée n'a rien dit, mais j'ai lu sa pensée dans ses yeux. Ou peut-être était-ce la mienne. Il est si aisé de surprendre son propre aveu dans le regard d'un muet. Orphée était mon ordonnance et le surnom d'un jeune engagé de 20 ans. Il a disparu lors du dernier combat. Je ne savais rien de lui, mais lui semblait connaître ce que j'ignorais de moi. Ses yeux parlaient le langage de mon silence. Il m'aidait à voir en moi-même. Peut-être notre vérité nous éclaire-t-elle toujours ainsi, par le regard des autres. C'était un garçon aussi intense que discret. Devant lui, mes hommes se retiraient dans leur profondeur et les plus gueulards devenaient muets. Sa jeunesse les rendait graves malgré eux. Parfois, en examinant le courrier des soldats, il m'arrivait de trouver un passage où Orphée était mentionné. L'un d'eux écrivait « Depuis notre arrivée, la brume est là au matin. Elle ne quitte pas les bois, même quand la brise souffle. Personne n'ose s'y aventurer, sauf un jeune gars de la Haute-Bavière, un engagé, un poète. Orphée qu'on l'appelle entre nous. Pourtant, on ne l'a jamais entendu prononcer une parole, rire ni chanter. Il est aussi silencieux que ces arbres dans la brume, et tous lui ressemblent, si bien qu'on ne sait jamais qui est là, lui ou une sentinelle ennemie. Tous le redoutaient. C'était en lui quelque chose qui les intimidait, qui troublait la tranquille ordonnance de leur monde, comme cette brume où il ne faisait plus la différence entre un arbre et un homme, un ennemi et l'un d'eux, la présence d'Orphée et celle de la mort. Le jour de son arrivée au régiment, dès que je l'ai vu garder le silence, seul devant tous, je me suis rappelé Ernst, un camarade de jeunesse qui me disait récemment « Nous avons foi dans les hommes de solitude parce que nous brûlons de vivre un rapport spirituel plus profond que ceux que nous trouvons parmi nous. » Les hommes de solitude. Cher Ernst, nous nous écrivons toujours. Il est dans un régiment de fusiliers près de chez moi, à Hanovre. Lui aussi, comme Orphée, comme moi, il avance vers un front invisible, là où d'autres ne voient que des lignes françaises. Ce sont les mêmes, madame, qui disent Orphée poète, sans pourtant l'avoir lu, et qui, devant son silence, se souviennent d'une ferveur, d'une impatience brusquement douce en eux. Moi aussi, un matin, j'ai aperçu Orphée s'enfoncer dans le bois. C'était le jour de sa disparition. J'étais là, dans la brume, seul parmi les arbres. Il est passé près de moi sans me voir. Il marchait en se parlant comme on écrit une lettre à voix haute, lentement. J'ai oublié les premières phrases. Je ne me souviens que de la fin. Je sais que ma vie et la vôtre ici-bas ne s'appartiendront jamais. Il y aura des instants le dessin d'un visage, un regard qui tient le mien, la brûlure d'une silhouette, me feront douloureusement croire à votre existence. Je ressentirai plus cruellement votre absence auprès de chaque femme. Quelques-unes à travers elles me laisseront vous effleurer. Les âges de ma vie se succéderont. Je vous oublierai souvent. Vous me manquerez toujours. Je crois que c'était un poème. Il n'écrivait jamais de lettres.